Radio Prague, émission en langue française. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Voici pour commencer un bulletin d'information présenté par Václav Richter. Les premières voitures ont été fabriquées ce lundi dans la nouvelle usine Toyota, Peugeot, Citroën Automobile, DPCA, dans la ville de Kolín, près de Prague. La capacité de production maximale doit être atteinte par l'usine dans un an. Selon le président directeur général de la société DPCA, l'usine fabriquera ensuite une voiture par minute. Selon le journal Tchèque Hospodářské Noviny, Gazette économique, déjà au cours de cette année, l'usine devrait fabriquer 150 000 voitures de marque Toyota Aygo, Peugeot 107 et Citroën C1. La majorité des voitures sera exportée en Italie et en France. On estime que les prix des voitures fabriquées par cette usine devraient varier entre 220 000 et 230 000 couronnes, soit quelque 7 000 euros. La République tchèque demande à la Commission européenne une aide pour résoudre la situation critique due à l'excédent de sa production de blé. La demande du ministre tchèque de l'Agriculture, Jaroslav Palas, a été appuyée aussi par ses homologues de Hongrie, de Slovaquie et d'Autriche. L'eurocommissaire à l'agriculture, Marianne Fischer-Bell, a promis que la Commission réagirait rapidement à la demande du ministre tchèque. Le débat sur le permis de conduire à points, système qui doit améliorer la discipline sur les routes tchèques, a été encore différé dans la Chambre des députés tchèques. Le ministère des Transports et des Communications, qui a présenté le projet de loi sur cette problématique, a décidé d'ajourner le débat, car on a présenté à la Chambre 260 projets de modification de cette loi. Le projet ne sera soumis à la Chambre qu'au mois d'avril. Au cours de 4 années à venir, les producteurs tchèques devraient exporter en Moldavie quelques 350 autobus et trolleybus. Les premiers 10 autobus tchèques sont arrivés en Moldavie déjà il y a quelques jours. Une livraison d'une vingtaine d'autobus est attendue encore avant la fin d'avril. Le Théâtre national de Prague a présenté à la presse un nouveau dictionnaire du théâtre qu'il a publié avec le concours de la maison d'édition Libri. Selon le directeur du Théâtre national, Daniel Dvořák, il s'agit du premier ouvrage tchèque de ce genre. 41 auteurs ont participé à la rédaction du dictionnaire. Météo. Ce lundi, le ciel en République tchèque a été nuageux avec des chutes de neige. Les températures du jour se sont situées entre -7 et 3 degrés. Mardi, le ciel en Tchéquie sera nuageux avec quelques rares chutes de neige. Les températures diurnes varieront entre -4 et 0 degrés. C'était les informations de Radio Prague. Merci de les avoir suivies.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
La crise gouvernementale continue. Le président Václav Klaus préfère une solution rapide pour que l'incertitude ne se prolonge pas à plusieurs semaines. Le consortium DPCA, Toyota, Peugeot et Citroën a commencé ce lundi la production de voitures à Kolín. L'Allemagne et la Tchéquie se sont vues décerner samedi à Los Angeles un Oscar technique et scientifique. Les détails tout de suite dans les faits et événements. La social-démocratie essaiera de sauver la coalition actuelle avec les chrétiens démocrates et les unionistes. Voilà la conclusion de la rencontre qui s'est tenue samedi à huis clos entre la direction de la social-démocratie avec à sa tête Stanislav Gross et les leaders des organisations régionales. Les négociateurs sociodémocrates veulent proposer à leurs partenaires de la coalition le texte d'une déclaration sur la continuation de la coalition actuelle. La rencontre a permis au Parti social-démocrate de réaffirmer son soutien à Stanislav Gross. Le parti reste opposé à sa révocation ou à sa démission. Nous rappellerons que la crise a été déclenchée par les informations sur les circonstances peu claires d'un prêt du Premier ministre destiné à l'achat de son appartement. Les révélations sur les activités commerciales de son épouse menaient avec une amie inculpée de fraude fiscale et qui serait propriétaire d'une maison close ont contraint le chef des chrétiens démocrates Miroslav Kalousek à inviter Stanislav Gross à la démission. Selon Kalousek, le chef du gouvernement est lié économiquement aux revenus d'une entreprise douteuse, y compris la prostitution, ce qui met en doute la crédibilité du cabinet. En réaction, l'épouse de Stanislav Gross a annoncé la fin de toutes ses activités. Il n'empêche que Miroslav Kalousek continue de réclamer le départ de Stanislav Gross et refuse que ce soit les trois ministres chrétiens-démocrates qui partent comme le propose Stanislav Gross. La principale formation de l'opposition, l'ODS, ne voit aucune autre issue à la crise actuelle que des élections législatives anticipées. Pour la première fois ce dimanche, leur éventuelle organisation a été admise également par Miroslav Kalousek. Le président de la République, Václav Klaus, préfère une solution rapide à la crise gouvernementale. Selon lui, il n'existe que deux variantes, une entente de tous les partis de la coalition et la continuation de l'actuel cabinet pendant les 16 prochains mois qui restent jusqu'à la fin de son mandat ou des législatives anticipées. Dans ce cas, il faudrait trouver un mécanisme constitutionnel rapide et généralement acceptable pour qu'elle puisse être organisée. Le président admettrait un gouvernement de transition, mais qui ne pourrait pas prendre des décisions de principe. Pour l'instant, la crise semble dans une impasse, aucun des acteurs ne voulant flancher sur ses positions. Un nouveau tour de négociation reprend ce lundi. C'est ce lundi que l'usine TPCA a commencé sa production à Kolín. Située à une soixantaine de kilomètres de Prague, cette usine commune à Toyota et à Peugeot Citroën constitue l'un des plus gros investissements étrangers dans la région. Plus de détails avec Alexis Rosenzweig.
Les voitures de l'usine tchèque, bâties sur une plateforme commune, seront commercialisées sous les noms de Toyota Aygo, Peugeot 107 et Citroën C1. Quelques clichés de ces voitures compactes ont déjà été diffusés dans la presse et elles seront présentées officiellement dans quelques jours au Salon de Genève. Nous avons joint par téléphone Jean-Pierre Chantossel, le vice-président de TPCA, ce lundi, un grand jour pour la société.
C'est peut-être un des plus importants jours de l'année et de la vie de TPCA, oui, parce qu'aujourd'hui on a montré les premières voitures de production et c'est le démarrage de la production. Donc avec tout au rendez-vous... Les hommes et la formation, la compétence, les équipements, le building, enfin les productions, préparation et tout. Tout est aujourd'hui on schedule et on n'a pas de difficultés majeures et on démarre très très bien. Le calendrier est respecté, la qualité est au rendez-vous. Au niveau des coûts, nous avons tenu aussi nos objectifs. Donc on est heureux du résultat. On a travaillé ce projet depuis 3 ans maintenant. En termes de développement de voitures, en termes de développement de nouvelles usines, en termes de procédures, en termes de process. Et aujourd'hui, tout est au rendez-vous, donc c'est tout à fait agréable.
Alors, l'usine ne tourne pour l'instant pas à plein régime. Est-ce qu'on peut parler de la capacité de production actuelle et des objectifs?
Ce mois-là de mars, nous allons produire environ 1100-1200 voitures. Et donc, on va monter progressivement en puissance avec une équipe... d'aujourd'hui au mois de juin à peu près, après une deuxième équipe qui travaillera du mois de juin, qu'on va engager du mois de juin au mois de septembre, fin septembre, début octobre, et la troisième équipe qui démarrera le mois de, début octobre. Donc pour chacune des phases, on va monter la première, disons, de 10 voitures par jour à peu près 350, la deuxième on passera de 350 à 700, et enfin on terminera notre montée en cadence d'octobre à début 2006 pour arriver à 1050 véhicules jour. L'objectif est de produire 300 000 ou un peu plus de 300 000 véhicules par an. Donc c'est un tiers pour Peugeot, normalement ça dépendra des marchés, mais un tiers pour Peugeot, un tiers pour Citroën, un tiers pour Toyota. C'est un petit véhicule, 3 portes, hein, c'est-à-dire 2 portes plus l'aillon arrière, ou 5 portes, c'est-à-dire 4 portes plus l'aillon arrière. 2 niveaux de finition, et plus pas mal d'options, climatisation, des choses comme ça, bien sûr avec un ABS. Bien, c'est une voiture qui démarre de toute façon, quel que soit le niveau, avec tous les moyens de ce qu'on appelle les sécurités, hein, sécurité active et passive. Donc, j'ai bien dit 3 portes, 5 portes, 2 niveaux, beaucoup d'options et 2 motorisations. Une motorisation diesel des V4, c'est un moteur diesel qui est acheté à PSA dans le nord de la France, c'est une usine qui est dans le nord de la France, c'est un moteur Toyota, essence, acheté en Pologne, pas très loin de nous d'ailleurs, à 3 heures de camion de Colline. Et deux boîtes de vitesse, une boîte de vitesse manuelle et une boîte de vitesse semi-automatique, semi-pilotée.
Plus de suspense à Hollywood, le palmarès de la 77e cérémonie des Oscars est connu. Samedi, avant que les meilleurs films et acteurs ne soient récompensés, les prestigieuses statuettes ont été remises aussi aux acteurs des inventions cinématographiques. L'Allemand Horst Burbula, inventeur du technocrane, une grue télescopique qui a révolutionné la technique du tournage, figure parmi eux. À noter que sa caméra miraculeuse est fabriquée à Plzeň, en Bohême de l'Ouest. Les détails avec Magdalena Segertova.
Pearl Harbor, Titanic, Spider-Man, Matrix. Il aurait été bien plus compliqué de tourner ces films sans le technocrane, cette caméra spéciale inventée par Horst Burbula. Quand j'ai réalisé mon premier, et il faut bien l'avouer aussi le dernier film, a-t-il dit à la presse tchèque, j'ai voulu tourner des images sophistiquées, mais avec la technique disponible, je n'y arrivais pas. J'ai eu alors l'idée de construire un bras télescopique mobile portant une caméra. Mais après, il a fallu encore résoudre tous les problèmes techniques. On a mis assez longtemps avant d'arriver à la perfection. Fin de citation. Horst Burbula a choisi de mettre en route son projet en République tchèque, pays dont il dit apprécier la longue tradition de l'industrie mécanique, ainsi que la main-d'œuvre douée et qualifiée. Aujourd'hui, il possède à Plzeň une entreprise de 60 salariés et planifie, fort de son succès aux Oscars et d'une demande croissante du marché, d'élargir la production des grues. Leur prix s'élève jusqu'à 500 000 euros, mais il est également possible de les louer. Gabriela Vonáčková, représentante commerciale de l'entreprise Technocrane, au micro de Zdeněk Vališ de Radio Prague. Cette grue télescopique permet de réaliser des mouvements linéaires de la caméra dans l'espace. La caméra se déplace de façon continue et on peut ainsi filmer dans des endroits difficilement accessibles. Cela remplace par exemple les rails qui avant faisaient bouger la caméra. On économise du temps, de l'argent et de l'énergie. L'Oscar technique et scientifique a été certes décerné à l'inventeur allemand du technocrane, Horst Burbula, mais ses fabricants tchèques comptent bien sûr arroser l'arrivée de la statuette à Plzeň avec du champagne, car une part du succès leur appartient. La grue télescopique est née en Allemagne, mais son évolution se passe ici, en République tchèque, et nous sommes la seule entreprise au monde qui la fabrique. Toutes ses composantes, mécaniques et électroniques, viennent d'ici.
C'était les faits et événements sur Radio Prague. Nous continuons avec le sport.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Salut à tous les amateurs de sport. Ce sont finalement 4 médailles, dont une d'or, que les Tchèques ont ramené au pays des championnats du monde de ski nordique à Oberstdorf en Allemagne. Après la victoire de Katarzyna Neumanova sur 10 km style libre en ouverture de la compétition, la paire composée de Martin Kaukal et de Dusan Kojicek a terminé troisième de l'épreuve du sprint par équipe, tandis qu'en saut à ski, Jakub Janda est monté sur les deuxième et troisième marches du podium, respectivement à l'issue des concours sur petit et grand tremplin. Dans la seconde partie de cette émission, nous parlerons également du rêve olympique de Prague. La semaine dernière, à l'issue d'une réunion très animée, la municipalité de la ville a décidé de poursuivre les études de faisabilité censées répondre à cette question fondamentale. L'organisation éventuelle des Jeux olympiques en 2016 ou 2020 est-elle dans les cordes de la capitale tchèque ? Avec Katarzyna Neumanova, nouvelle championne du monde et quadruple médaillée olympique, la République tchèque s'est donc découverte depuis le début de saison un nouvel héros en ski nordique. Après sa médaille d'argent sur petit tremplin samedi dernier, le sauteur tchèque Jakub Janda a récidivé vendredi dans l'épreuve reine de la discipline en décrochant une médaille de bronze sur le grand tremplin. Quatrième à l'issue de la première manche avec un saut mesuré à 138 mètres, Jakub Janda a réalisé un second envol très bien maîtrisé techniquement, le faisant atterrir 3 mètres plus loin. Suffisant pour un podium, mais pas pour inquiéter le Finlandais Janne Ahonen, vainqueur sans surprise. Au terme d'un spectacle grandiose offert en nocturne à un public allemand venu en masse et connaisseur, Jakub Janda revenait avec plaisir sur la performance sans doute la plus marquante de sa carrière.
J'étais beaucoup plus nerveux avant mon premier saut. Avant le second, je me suis dit que j'avais déjà remporté une médaille sur le petit tremplin, que mon objectif était donc atteint et que je n'avais donc rien à perdre. Finalement, tout s'est très bien passé. Je pense que cette médaille de bronze sur grand tremplin a été beaucoup plus difficile à obtenir que celle d'argent sur le petit. Je ne m'attendais pas du tout à une telle performance et j'en suis donc très heureux. La troisième place est un super résultat.
Quelques heures auparavant, en ski de fond, cette fois Martin Kokal et Dusan Kojicek avaient causé la surprise en prenant la troisième place de l'épreuve de sprint par équipe, inscrite pour la première fois au programme des mondiaux. La paire tchèque a terminé à 4 secondes et 8 dixièmes de la Norvège, vainqueur, et à une petite seconde de l'Allemagne. Pour Martin Kokal, il s'agissait d'un retour au tout premier plan après sa victoire sur 50 km au championnat du monde de Val di Fiemme en Italie en 2003. Pour son partenaire, âgé de 21 ans, il s'agissait en revanche du plus grand succès de sa courte carrière.
Avant la course, je m'attendais plutôt à ce que nous terminions aux alentours de la sixième place. C'était donc une surprise. J'étais gêné par ma maladie. Je suis donc content que nous ayons obtenu une médaille malgré ce handicap. C'est vrai qu'avec un peu plus de chance, nous aurions pu terminer deuxième, mais d'un autre côté, ce résultat me redonne du goût au travail et à la compétition, et cette médaille de bronze suffit à mon bonheur.
Le rêve olympique de Prague se poursuit. Jeudi, la municipalité a décidé d'approfondir sa réflexion sur le dépôt éventuel auprès du Comité international olympique d'un dossier de candidature de la capitale tchèque à l'organisation des Jeux en 2016 ou 2020. Les avis sont toutefois partagés sur le bien fondé d'un tel projet. Ses opposants froncent les sourcils devant l'ampleur des investissements à effectuer, insistant sur le fait que Prague est trop petite pour la tenue d'une telle manifestation dans ses murs et ne dispose pas des infrastructures nécessaires. En outre, des doutes légitimes pèsent sur l'utilisation des installations sportives construites spécialement pour l'occasion, une fois la flamme olympique éteinte et le discours de clôture prononcé. A l'inverse, les partisans de Prague Olympique, avec à leur tête le maire de la ville, Pavel Bem, pensent que les efforts qui seraient réalisés en vue de l'attribution des Jeux permettraient un développement économique et des infrastructures de la ville. Et puis, comme l'a fait remarquer Pavel Bem, à l'heure actuelle, il ne s'agit pas encore de prendre la décision si, oui ou non, Prague présente sa candidature à Lausanne, siège du CIO.
Nous avons seulement décidé de poursuivre les analyses, les estimations des coûts et de dresser une carte des différents endroits de la ville susceptibles de servir et à quel effet en cas de candidature. Et puis, il nous faut savoir combien l'organisation des Jeux pourrait coûter.
Selon les premières études, le montant des dépenses directement liées aux Jeux Olympiques est évalué à près de 30 milliards de dollars. À cette somme s'ajouteraient 20 autres milliards pour des investissements indirects dans tout le pays, par exemple pour les transports ou encore les capacités de logement. Bref, des sommes importantes qui font dire à beaucoup que si l'idée de la tenue des Jeux Olympiques est excellente, en revanche, elle n'est tout simplement pas réaliste et réalisable. À voir. Et donc, c'est avec le rêve olympique de Prague que se termine cette émission sportive. Merci de votre attention. Restez en notre compagnie. Tout de suite, la musique avec Jarka Gisubilova.
Na besedu idem k vám, dobrou volu nesem vám.
Un peu de musique quand même. Jarka Gisubelova.
Na besedu idem k vám, dobrou volu nesem vám. Na besedu idem k vám.
Jura Pavlica, directeur artistique de l'ensemble Hradišťan, a donné jeudi dernier un récital au siège de l'ONU à New York. Il s'est présenté au public en tant que joueur de violon acoustique et électronique, mais aussi d'un instrument à cordes médiéval, la vielle, et en tant qu'interprète d'une chanson sud-africaine. Jura Pavlica est un artiste au talent multiple. Son répertoire comprend la création populaire, des œuvres historiques retrouvées dans les archives et ses propres compositions contemporaines. La riche tradition folklorique de la Slovaquie morave reste cependant sa principale source d'inspiration. Jouer les musiques est le titre de la première chanson interprétée par Jura Pavlica et Hrajišťan. Jura Pavlica est depuis 1978 directeur artistique de Hrajišťan, un ensemble à l'origine entièrement folklorique et métamorphosé sous son influence et sous sa direction en groupement musical alternatif. La musique de Hrajišťan unifiant différents genres et courants, y compris la musique classique, le folk, le jazz, est considérée comme un phénomène original de la scène culturelle tchèque. Le répertoire de Hrajišťan va au travers des genres musicaux, y descend jusqu'aux racines et montre les traits communs des musiques du monde. La capacité de son directeur artistique d'unifier les gens et les projets est documentée par sa collaboration avec d'éminents interprètes et ensembles dans l'orchestre de chambre L'Oceana Tchèque, Spiritual Quintet Bambini di Praga ou encore avec le multi-instrumentiste d'Afrique du Sud Dizu Plagis. Jura Pavlica est aussi l'auteur de musique scénique. La chanson suivante, interprétée avec Philippe Topol et le groupe Psi Vojaci, Soldats Chiens, s'appelle « Je vis ».
Ten vychlouj až na večer, ženu až bude po smrti, meč po bitvě, let až když po něm přejde řeku, svět nevychlouj, dřív než vystříznějíš.
Le concert de Hrajišťan à l'ONU a été organisé par la mission tchèque dans le cadre de sa campagne pour l'élection de la Tchéquie comme membre non permanent du Conseil de sécurité pour les années 2008-2009. C'était le point culminant d'une tournée de 3 semaines de Jura Pavlica aux États-Unis, tournée qui l'a conduit à Hawaï, en Californie, à Washington. La dernière chanson, Lorsque les gens se rencontrent, est une sorte de message de Jura Pavlica à son auditoire.
Yeah.
Když se sejdou mračna, svět se černá v jejich stínu. Když se sejdou vlci, cení zuby mají vlčí hlad. Když se sejdou ryby, tak tiše plodí nad hlubinu. Když se sejdou lidé, kéž naladí a začnou hrát. Když se sejdou lidé, kéž naladí a začnou.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir et à très bientôt sur Radio Prague.
Svět se černá v jejich stínu.
Když se sejdou vrača, svět se černá v jejich stínu.
Když se sejdou vlci, cení zuby mají vlčí hlad.
Když se sejdou vlci, cení zuby mají vlčí hlad.
Když se sejdou ryby, tak tiše plují nad hlubinou.
Když se sejdou ryby, tak tiše plují nad hlubinou.
Když se sejdou lidé, kéž naladí a začnou hrát.
Když se sejdou lidé, sejdou lidé, kež naladí a začnou hrát.
Když se sejdou lidé, kež naladí a začnou hrát. Když se sejdou lidé, kež naladí a začnou hrát. Když se sejdou lidé, kež naladí a začnou hrát.
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu má starodávná milá, starodávná milá. Kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívalo pro vodu.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 116.